Territoire en projet, les collectivités qui construisent les lieux de demain.
864, c'est le nombre de communes qui sont touchées par le risque de submersion marine en France, territoire d'outre-mer compris. Le GIEC annonce une élévation du niveau de la mer comprise entre 43 cm et un peu plus d'un mètre d'ici 2100. Or, on le sait, plus d'un million de personnes vivent sur les littoraux qui demeurent par ailleurs très attractifs, pas seulement d'ailleurs pour le cadre et la qualité de vie qu'ils offrent, mais aussi pour l'économie nationale et mondiale qui nécessite un accès à la mer. Alors, comment allons-nous régler la question de la submersion quand demain les phénomènes et les effets du changement climatique vont s'accentuer et s'aggraver? C'est la vaste question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui en présence de nos invités que je suis ravie d'accueillir sur ce plateau et en duplex. Isabelle Diaz, bonjour. Vous êtes secrétaire permanente adjointe du plan urbanisme, construction, architecture, donc le PUCA. Stéphane Buchot, bonjour. Vous êtes député de Vendée, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Margot Limel, bonjour. Vous êtes urbaniste, chef de projet au sein de l'agence Alphaville, spécialiste des plans de prévention au risque. Et à distance, donc monsieur Loïc Prieur, avocat en droit public et droit de l'urbanisme, maître de conférence, spécialiste de la loi littorale. Bonjour.
Bonjour.
Je vous propose, avant de commencer notre conversation, puisqu'il s'agit de cela aussi, d'écouter un premier extrait d'une vidéo, d'un reportage de France 3 Régions.
Nous sommes au matin du 28 février 2010. La tempête Xynthia vient de frapper et laisse derrière elle un paysage effrayant. Des quartiers entiers de Vendée et de Charente-Maritime ont presque disparu sous les eaux. Personne ne s'attendait à voir la mer monter aussi rapidement. 47 personnes perdent la vie lors de cette catastrophe.
Les voisins là-bas sont morts, de l'autre côté ils sont morts, là-bas on a des copains qui sont morts.
C'est monté très vite, hein. très vite.
La tempête Xynthia ne présentait pourtant pas de caractère exceptionnel, mais elle arrive sur les côtes françaises au pic d'une grande marée. Associée à des vents de 160 km/h, la situation vire à la catastrophe. Le 27 février, les autorités lancent l'alerte rouge. L'annonce est fortement relayée dans les médias.
Voilà, on vient de passer en rouge, effectivement, ainsi que la Vendée.
Avis de tempête sur la France, 70 départements ont été placés en vigilance orange, 4 autres en vigilance rouge. La nuit prochaine, les vents pourront souffler jusqu'à
150 km/h. Tout le monde se prépare à des vents violents. Erreur. En réalité, le danger vient de la mer.
On avait garé nos voitures, protégé nos voitures. On ne s'attendait absolument pas à une submersion marine. On pensait à un coup de vent.
Le rouge, si vous voulez, pour nous, c'était 99, le vent. Voilà. Donc c'était ça pour nous, la vigilance rouge, vous voyez.
Vers 23h, de grosses vagues passent par-dessus la promenade, comme ici à La Rochelle. Rapidement, la mer monte et les rues deviennent impraticables. Les riverains prennent alors conscience de la gravité de la situation.
Donc quand on écoute ce reportage de France 3 Régions, c'est assez dramatique. On n'a pas oublié, 13 ans plus tard, la catastrophe de Xynthia. Margot Libel, quand on écoute ces témoignages assez poignants, quand on regarde un peu l'actualité, on a quand même l'impression que la prise de conscience, elle s'est faite avec cette terrible tempête de Xynthia en 2010. Est-ce que c'est le cas d'après vous ?
Oui, on peut effectivement dire que tout a commencé de ce côté-là avec Xynthia, la prise de conscience de l'ampleur du risque et des effets qu'il peut avoir. Ça a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Pourtant, on ne peut pas totalement dire que le risque était méconnu ou complètement ignoré. Hein. On savait que la mer pouvait représenter un danger, c'était connu, mais peut-être pas dans cette ampleur. Et on s'est surtout rendu compte qu'on n'était pas assez ou mal protégé par rapport à ce risque.
C'est quoi le risque de submersion, si on peut le redéfinir ?
Alors la submersion, c'est une avancée de la mer sur les terres pendant pendant une période temporaire. C'est un phénomène vraiment naturel. Hein. La mer s'avance sur les terres et elle se retire ensuite. C'est ce qu'on qualifie en géographie d'un aléa. C'est un phénomène naturel qui peut se produire de façon plus ou moins forte et plus ou moins d'ampleur. Et on parle de risque dès lors que cet aléa va rencontrer des enjeux qui sont vulnérables à ce phénomène. Donc ces enjeux, ça va être des personnes, des biens, donc des voitures, des maisons, qui vont être sur les zones où la mer avance pendant pendant ce temps.
En l'occurrence, tous les territoires littoraux bas qui sont habités, construits, aménagés aujourd'hui, quoi, si je comprends bien.
C'est ça, il y a plusieurs niveaux de vulnérabilité. Plus on est bas, plus on est proche de la mer, plus on va être potentiellement vulnérable.
Stéphane Buchou, vous êtes député de Vendée. Vous avez dû quand même voir de près cette catastrophe. Qu'est-ce que vous en avez retenu à l'époque? Comment ça s'est passé?
Alors écoutez, moi je n'étais pas député en 2010. Mais évidemment, nous avons dans le département été tous marqués, et bien au-delà du département, par cette catastrophe, parce que malheureusement, il y a eu des victimes. Oui. Et de nombreuses victimes. Et je dirais aujourd'hui que les personnes qui sont malheureusement décédées lors de cette catastrophe, lors de cette tempête, n'auraient jamais dû décéder. Qu'est-ce qu'on en retient? On en retient globalement que depuis qu'on urbanise les littoraux, l'homme s'est cru plus fort que la nature. Margot Libel le disait en substance. Il l'a cru qu'il était plus fort que la mer, qu'il dompterait la mer. Et donc, malheureusement, à l'aune de cette catastrophe, on s'est rendu compte que l'homme n'était pas plus fort que la mer et que les constructions qui avaient été réalisées à la faute sur mer, mais pas qu'à la faute sur mer, on en a l'illustration sur beaucoup de nos littoraux aujourd'hui, s'étaient refermées sur les personnes qui y habitaient. Un véritable piège, puisque... Pour l'illustrer de manière très simple, et vous l'avez dit, Margot, en fait, vous avez le niveau de la mer, et puis vous avez des constructions qui sont en contrebas. Et quand vous avez une conjonction d'événements climatiques et que la mer déborde, l'eau vient se déverser dans la cuvette. Il se trouve en l'occurrence, malheureusement, que là, ça s'est passé en plus la nuit.
Ah oui.
Et que donc, les personnes, sans tomber dans quelque chose de trop pathos, sont décédées, noyées dans leurs habitations, ne pouvant pas, malheureusement, en sortir. Donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois, je le répète, c'est qu'on n'est pas plus fort que la nature, on n'est pas plus fort que la mer, et qu'à ce titre-là, il convient aujourd'hui de s'adapter.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu quand même des prises de conscience, notamment de la part de l'État, du ministère. Isabelle Diaz, est-ce que vous avez ressenti, vous, cette prise de conscience à partir de 2010? Et est-ce que vous avez vu quand même une série d'outils se mettre en place à partir de ce moment-là?
Oui, tout à fait. Hein, la prise de conscience, elle est certainement très forte à ce moment-là. Dans le prolongement des propos qui sont tenus avant moi, c'est la question de la vulnérabilité de nos aménagements et des ouvrages de protection en fait contre la mer. Alors, oui. C'est ce contre la mer qui va être retravaillé pour voir comment on peut transformer cette appréhension de la mer et de phénomènes naturels. Bien sûr, les travaux d'urgence ont été entrepris. Hein. On a renforcé le système d'endiguement sur 600 km, notamment. On a accompagné les familles, bien sûr, les plus sinistrées. On a acquis des biens à côté État pour les démolir, puisqu'il s'agissait de ne plus... On a bien pris conscience que certains endroits du littoral ne sont plus habitable. Et de manière un peu plus stratégique, on a mis en place, à l'époque, en 2011, le plan submersion rapide.
Oui, c'est
qui est un plan avec des axes d'action extrêmement importants, parce qu'on est sur plusieurs volets, c'est-à-dire la fiabilité des ouvrages. Hein, on va travailler beaucoup là-dessus. Améliorer la connaissance, ça c'est un point extrêmement important. Et notamment les systèmes de surveillance et d'alerte sur les vagues, mais aussi sur les alertes inondations. Et sur les aspects aménagement, ce qui est très important, c'est que les plans de prévention des risques, qui existent déjà avant Xintia, vont être renforcés et vont être rendus obligatoires pour les communes qui sont exposées. Et il s'agit en l'occurrence d'un peu plus de 300 communes. Et ces plans donc de prévention des risques vont être appelés littoraux.
Oui.
Alors ces plans sont très importants parce qu'ils décrivent en fait l'aléa sous forme de carte. Et l'idée, c'est qu'on a en gros deux zones qui sont identifiées, donc les zones d'aléa fort, où il n'est pas question en fait d'augmenter les enjeux Margot parlait d'enjeux, donc d'ajouter des constructions notamment, ou de l'activité. Mmh. Et il y a une deuxième zone qui, elle, n'est pas directement impactée par, le risque, mais elle est quand même tout proche de cette zone-là. Et donc, là, on a des prescriptions particulières. Alors, ces plans sont élaborés par l'État, et ils sont réglementaires, et ils s'imposent, en fait, aux plans d'urbanisme locaux. Ça, c'est important parce qu'on voit bien que le sujet est un sujet d'aménagement.
Eh oui, bien sûr. Et
donc, après, évidemment, il y a des questions d'appropriation hein, qui sont peut-être des questions importantes entre élaborer un plan, le prescrire. Il y a la question de comment on le met en œuvre.
Eh oui. Et justement, donc on voit ces outils réglementaires qui commencent à émerger. Loïc Prieur, qu'en est-il de la loi au regard de la submersion? Est-ce que l'épisode de 2010 a fait changer les choses d'un point de vue législatif, ou est-ce qu'il y avait déjà des mesures existantes au préalable?
Il y a eu à l'évidence des évolutions. Je me souviens qu'au lendemain de la catastrophe Xynthia, là, donc, vous avez rappelé avec ce terrifiant reportage les conséquences dramatiques. Je me souviens que je crois que le président de la République s'était interrogé sur la loi littorale et son efficacité. Alors, en réalité, la loi littorale existe depuis 1986, mais ça peut sembler aujourd'hui contre-intuitif, mais c'est une loi qui ne s'occupait pas, en tout cas à l'époque, de sécurité publique. La question du risque naturel, la question de la submersion marine, était davantage traitée, de manière insuffisante certes, mais par les plans locaux d'urbanisme, qui ont obligation, je dirais commune littorale ou pas, d'appréhender la question du risque naturel. Est traité, comme ça a été rappelé par Madame Diaz, par les plans de prévention des risques littoraux élaborés par l'État. Dans la loi littorale, je dirais aborder le sujet du risque submersion, du recul trait de côte, qui est un peu plus large, de manière assez timide. Certes, elle rend la bande de 100 mètres inconstructible. Elle permettait dans certains cas aux communes littorales d'élargir cette bande littorale inconstructible à plus de 100 mètres en cas d'érosion. Évidemment, dès lors qu'elle maîtrise aussi l'urbanisation, elle réduit l'exposition au risque, mais c'était pas son objet direct. Son objet direct à cette loi littorale de 1986, c'est essentiellement préserver l'accès du public au littoral et faire en sorte aussi de préserver un paysage littoral. Et quand on regarde d'ailleurs le reportage, il est vu et Ariel le montrait très bien, on voit sur la commune de La Faulte-sur-Mer cette urbanisation qui est très largement constituée, parfois d'avant 1986, ce qui fait que même une application stricte de la loi littorale de 1986 n'aurait pas changé grand-chose. Alors, pour répondre rapidement à votre question, est-ce que la tempête Xynthia et ses conséquences dramatiques ont changé les choses par rapport à la loi littorale? La réponse est oui. Le changement est intervenu dès 2016 avec une loi sur l'économie bleue qui a rendu obligatoire la prise en compte plutôt de la problématique submersion marine lors de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme littoraux. Alors, la loi ne crée pas réellement en 2016 de règles contraignantes. Ça arrivera, mais on en parlera plus tard avec climat résilience en 2021. Mais néanmoins, elle indique que lorsqu'on définit l'architecture du PLU d'une commune littorale, on doit prendre en compte désormais la submersion marine, c'est la principale innovation.
Ouais, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui ont été faites. Je vous propose de faire un point sur la situation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, et juste avant d'écouter ce court reportage.
Continuer de vivre à La Faulte en tirant les leçons du passé. Pour ses recherches, Axel arpente les quartiers de la ville toujours en place pour établir des cartes de dangerosité.
Les retours d'expérience de la tempête Xynthia ont mis en lumière que l'architecture et la configuration des constructions résidentielles pouvaient potentiellement présenter les caractéristiques d'un piège pour leurs occupants. On sait notamment que les trois quarts des victimes sont décédées dans des constructions de plein pied et en fait n'a pas pu évacuer en hauteur et ont été piégées à l'intérieur de chez elles. Là justement on voit qu'il y a des barreaux aux fenêtres. Alors ici, on est sur une construction qui dispose d'un étage refuge.
Rehausser les maisons relève de l'initiative individuelle. Aujourd'hui, force est de constater que l'architecture locale n'est toujours pas adaptée au risque de submersion. Pour le reste, les 8 km d'ouvrage qui entourent La Faulte ont été relevés et renforcés. Dans cette affaire, l'ancienne mairie a été condamnée pour manquement grave. La nouvelle équipe municipale en place a dû prendre le problème à bras le corps.
Une chose est certaine, c'est que dès que Xynthia, on en aura d'autres. Et ça, c'est une certitude. Donc, comment on vit demain? pour faire en sorte que notre sécurité soit la plus appréhendée possible et que l'ensemble de notre population puisse vivre sereinement, en sachant que tout est préparé pour, au cas où, on sache ce qu'il faut faire.
Donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a quand même, bon, hein, il y a une prise de conscience, mais ensuite, il y a une responsabilité hein, qui n'est pas négligeable, hein, notamment pour les élus locaux et les maires des communes. Mais on a l'impression aussi, à travers le reportage, et puisqu'on peut voir, hein, tout simplement, quand on arpente les communes littorales encore aujourd'hui, c'est que, donc ce reportage de France 3 Bretagne, hein, réalisé il y a 3 ans, c'est que finalement, les communes se sont pas tellement adaptées encore au risque de submersion. On a l'impression que finalement, il y a une sorte, je sais pas si c'est d'aveuglement ou peut-être d'attentisme, en tout cas, de la part de ces communes. Margot Libelle, comment vous l'expliquez ? Est-ce que pour vous, il y a justement cet attentisme ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience aussi du risque ? Est-ce que les élus, est-ce que les habitants sont finalement sensibilisés à cette question ? Ou finalement, non, l'attraction de la mer est trop forte et puis bon, on verra bien ce qui se passera, quoi. On s'adaptera quand ça sera là, quoi.
Ben, effectivement, c'est quand même compliqué de dire que la culture du risque est complètement répandue sur l'ensemble du territoire et même littoral. Hein, même les personnes qui vivent sur ces territoires depuis toujours, qui ont la connaissance, l'expérience de ces aléas, qui ont déjà vu des vagues. Bon, on le rappelait en introduction, hein, le changement climatique a aussi des effets. Les phénomènes vont être de plus en plus fréquents, forts, et il faut pouvoir s'y préparer. Mmh. Et pour ça, au-delà d'une question de prise de conscience ou de connaissance, on sait qu'il y a un risque, mais est-ce qu'on est suffisamment acculturé à ce risque ? Est-ce qu'on sait réellement comment le gérer et le traiter ? C'est vraiment là l'enjeu. Et de réussir à le traiter localement, parce qu'on parlait de beaucoup d'outils, notamment des outils de l'État, donc les plans de prévention des risques, ils sont effectivement élaborés par l'État, comme le rappelait Madame Diaz. Mais on a un vrai enjeu d'aménagement du territoire, et pour l'aménagement du territoire, ce sont vraiment les communes qui sont, les communes et les collectivités de façon générale, qui sont aux manœuvres. Donc, si ces territoires ne prennent pas conscience du risque et ne montent pas peut-être des projets autour de ce sujet, effectivement, les territoires resteront toujours vulnérables. Alors, on peut effectivement parler de la question du temps, en fait, prendre en compte le risque dans l'aménagement, ça prend beaucoup de temps.
Et
c'est
oui,
des projets, au long cours, qui se confrontent à d'autres préoccupations des élus locaux, hein, qui sont dans un certain temps de mandat, qui ont des préoccupations quotidiennes, etc. Donc c'est un sujet parmi d'autres. Mais aujourd'hui, l'action et les outils se tournent de plus en plus vers cette appropriation du risque localement. On n'est plus seulement dans la vision de l'État qui va venir réglementer et imposer des zones non constructibles avec les plans de prévention des risques. Mais on est vraiment dans une bascule depuis Xintia, ou en tout cas ces dernières années, pour favoriser l'appropriation du risque localement par les élus, mais aussi les habitants, en encourageant la mise en place de projets urbains autour de ce sujet qui prennent en compte les risques. Donc, des projets de déconstruction.
Puis peut-être de signalétique aussi, avec des j'imagine, une sensibilisation des informations diverses et variées.
Et réussir à partager la connaissance, monter des observatoires, informer sur l'évolution du trait de côte, etc. Mmh. Donc il y a vraiment cette bascule aujourd'hui, depuis ces dernières années, sur la culture du risque dans les outils.
Stéphane Buchou, c'est quelque chose que vous observez, vous aussi, du coup, sur le terrain en tant qu'élu et à la fois en tant que, je dirais, habitant également. Comment vous vivez les choses ? Comment vous voyez cette évolution ?
Vous disiez tout à l'heure attentisme. Je pense que le mot est intéressant. En fait, ce qu'on peut constater, au fond, c'est que on a régulièrement des rapports du GIEC qui nous informent, et tant mieux d'ailleurs, de ce qui se passe au niveau du changement climatique et de l'élévation du niveau des mers. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience de ce qui se passe. Là où on a une difficulté, je pense, collective, c'est à considérer que ces effets du changement climatique et cette élévation du niveau des mers puissent nous toucher à titre individuel. C'est-à-dire que tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer. Après, la manière dont ça peut se traduire très concrètement là où on habite et là où on vit, ça me semble un peu plus compliqué. Il y a évidemment, sur les territoires littoraux, une forte attractivité, une forte pression qui est mise sur, sur les élus locaux. Mes propos ne sont pas là pour jeter l'opprobre sur, sur les élus locaux, mais effectivement, beaucoup de nos concitoyens veulent continuer à venir vivre dans les territoires littoraux et au bord de la mer. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut toujours vivre au bord de la mer ? Et ça veut dire quoi, vivre au bord de la mer ? Est-ce que c'est vivre les pieds dans l'eau, si je puis l'exprimer ainsi, ou est-ce que ça nécessite de reculer un peu ? La question aujourd'hui, elle est posée. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous parliez des digues tout à l'heure, suite à Xynthia. Il faut quand même rappeler que, on l'a dit évidemment, Xynthia, c'est 2010. On est en 2023, ça fait 13 ans. Est-ce qu'on a véritablement tiré les enseignements de cette catastrophe ? Moi, je n'en suis très sincèrement pas certain. Et j'étais la semaine dernière à l'inauguration d'une portion de digue dans une commune de ma circonscription, à Boin, pour ne pas la citer. 4 km de digue en réfection, qui ont coûté 7,7 millions d'euros. C'est beaucoup
énorme,
d'argent.
Oui.
C'est énorme. Alors, il ne s'agit pas là non plus, dans mes propos, de critiquer le fait qu'on ait réaliser ses travaux sur la digue, mais simplement de se dire et de se projeter en se disant que effectivement, compte tenu des enjeux de l'économie que cela représente, parce que vous avez derrière cette digue beaucoup d'entreprises ostréicoles qui ont besoin de la proximité de la mer, on avait vraisemblablement nécessité de reconstruire cette digue. Mais dans combien de temps ? Moi, j'ai posé la question dans mon intervention, j'ai bien vu que... Pardon de le dire de manière aussi triviale, mais j'ai bien vu que beaucoup regardaient leurs chaussures au moment où j'ai posé la question. J'ai dit, mais dans combien de temps est-ce qu'il faudra réinjecter encore quelques millions d'euros pour remettre des enrochements, pour refaire cette digue ? J'ai pas eu de réponse. Et encore une fois, je pense aussi que lorsque le grand public constate que les collectivités remettent de l'argent pour reconstruire ces ouvrages, on alimente le fait que, au final... l'homme peut dompter la mer.
Absolument.
Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque part une forme de schizophrénie, une forme de paradoxe, à considérer qu'effectivement, il y a une prise de conscience, mais quand il va falloir agir concrètement pour se dire, la maison que j'ai achetée, ou celle que j'envisage d'acheter à proximité de la mer et qui est potentiellement menacée, c'est peut-être pas celle-là qu'il va falloir que j'acquière. On voit bien que c'est compliqué. Et donc, effectivement, le législateur que je suis doit prendre un certain nombre de mesures, de dispositions. On parlera tout à l'heure de la loi climat et résilience. Mais je pense aussi, et c'était dit dans le reportage que nous venons d'entendre, qu'il y a une responsabilité individuelle et collective extrêmement importante.
Oui.
Au-delà de l'image carte postale de nos territoires littoraux, ce sont des territoires qui sont menacés. Et donc, ce que disait Margot Libel est tout à fait juste et je lui embraye le pas. C'est-à-dire qu'on a un gros sujet d'information, de connaissances scientifiques, mais avec des termes, on en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, avec des termes qui permettent à chacune et à chacun de bien comprendre ce qui se passe et de bien prendre conscience des enjeux pour ne pas que se reproduise l'année prochaine ou je ne sais quand, le plus tard possible, évidemment, ce qui s'est passé à la Faulx-sur-Mer.
Et oui, évidemment, oui. Isabelle Diaz, est-ce que vous pensez que, par ailleurs, on va l'appeler comme ça, cet attentisme, finalement, de la part de certaines communes littorales. On ne peut pas toutes les mettre, d'ailleurs, dans le même panier, parce qu'on constate quand même qu'il y a aussi beaucoup de très beaux exemples. Hein. On reviendra dessus probablement dans la partie suivante, mais notamment, je pense à la Cano, qui fait beaucoup. Est-ce que vous pensez que cette situation est quand même liée à un manque d'outils ou de moyens qui seraient mis à disposition des communes littorales, ou est-ce que c'est un choix finalement local ?
Manque d'outils, je pense que non. C'est certainement pas le principal problème. Les outils existent. Il y en a beaucoup. Et le problème est peut-être plus de savoir les utiliser, et peut-être aussi de voir comment les outils emportent une certaine conception, en fait, de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que de passer d'une prise de conscience du danger à se dire... en fait, on a envie de vivre, en effet, sur le littoral, les enjeux sont là, mais comment changer, en fait, notre rapport à la mer, et c'est-à-dire ne plus se dire construire des digues. Alors ça, on l'a fait dans l'urgence, on le fait encore, mais n'y a-t-il pas d'autres solutions ? Et comment apprendre à vivre avec la marée qui monte ? Et donc, donner de la place, faire de la place, en fait, à cette mer qui monte. En plus, on parle de la mer, mais il y a d'autres phénomènes.
Et l'érosion, notamment.
On peut y ajouter l'érosion, on peut y ajouter le manque de nature en relation avec la montée des températures. On peut ajouter le manque d'eau, en fait, de place de l'eau douce, notamment. Et pour cela, en fait, ce qu'on voit, et Margot le disait, il y a énormément de nouvelles formes d'action qui ne sont pas forcément liées à la contrainte, mais qui sont plutôt des formes d'action collective entre États, collectivités, agences de l'État, hein, puisqu'on a par exemple les EPF, donc c'est des établissements publics fonciers qui sont en train de travailler beaucoup sur ces questions-là, le CEREMA, hein, qui est expert sur ces sujets-là. Et donc on commence... ça date des années 2012. Hein. On a énormément d'expériences sur les littoraux d'actions collectives pour pouvoir changer en fait la culture de notre rapport à ces phénomènes et aller vers le changement de l'aménagement. En fait, c'est le clou, il est là, en fait.
Et oui, et d'arrêter de construire aussi sur des zones finalement qui ne devraient pas l'être. Loïc Prieur, vous pensez justement, pour rebondir un peu sur ce sujet-là, je dirais de la réglementation de la construction, vous pensez que les outils réglementaires à disposition de l'aménagement justement sont suffisants selon vous? Comment vous voyez les choses d'un point de vue du juriste?
Là, du point de vue du droit, je me ferai l'écho de ce qu'Isabelle disait à l'instant. Je crois qu'on a une boîte à outils en termes d'instruments d'aménagement qui est déjà pléthorique, qui, si elle était bien utilisée, permettrait de faire face à la plupart de ces situations. Les outils sont largement existants. Ce qui va peut-être faire défaut, c'est de la part peut-être de l'État en certaine époque, de la part des élus aussi parfois. Ce qui va manquer, c'est la volonté. On va pas faire l'inventaire ici des outils à disposition. Hein, ce serait un chapitre qui durerait jusqu'au soir. Mais si on prend simplement les PLU, les plans locaux d'urbanisme, tout à l'heure, dans le reportage, mon collègue d'université Axel Cléache, là, qu'on voyait déambuler dans les rues de la Faute-sur-Mer, parlait des questions des niveaux refuges. Dans un PLU, on peut parfaitement venir rendre obligatoire pour chaque nouvelle construction la création d'un niveau refuge ou à tout le moins d'une trappe pour que les gens puissent accéder en toiture. Dans un PLU, on peut aussi parfaitement, en fonction de l'intensité du risque de submersion, on peut parfaitement aussi rendre un terrain inconstructible pour ce motif-là. On peut rendre obligatoire des surélévations des premiers planchers des niveaux de vie habitables. On peut, le cas échéant aussi, définir des pourcentages de secteurs qui ne seront pas imperméabilisés de manière à ce qu'en cas de submersion, eh bien, l'écoulement des eaux ou son infiltration puisse se produire sans être gêné par des surfaces qui seraient trop imperméabilisées. Donc, le PLU, c'est déjà une boîte à outils formidable qui permet de faire face à quasiment toutes les situations. La loi littorale, bon, certes, elle n'est pas conçue pour ça, c'est ce que je disais en préambule, mais bon, dans une commune littorale, on peut, comme on le disait, on peut étendre la bande de 100 mètres, hein, qui pour le coup fera plus de 100 mètres, de manière à reculer l'exposition au risque. C'est naturellement pas forcément toujours pertinent, hein, monsieur le député le rappelait, mais lorsque, dans certains cas, la digue ou l'ouvrage de défense contre la mer est le seul recours et qu'il est utile et qu'il n'aggrave pas le problème, ce qui est souvent aussi le cas, la loi littorale ne s'y oppose pas non plus. Et puis je dirais, même si, in fine, les PLU sont insuffisants, la loi littorale était mal appliquée, à tout moment encore, au niveau de la délivrance des permis de construire, on peut refuser le permis de construire, ou en tout cas saisir le tribunal pour le faire annuler, sur la base de règles générales d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle le RNU dans le jargon des juristes, hein, pardon pour les sigles, et cet article qui permet de refuser un permis de construire si jamais il est exposé à un risque pour la sécurité publique. D'ailleurs, on s'aperçoit que, et sans être trop long sur le sujet, mais on s'aperçoit que juste avant que Xynthia, le préfet de Vendée, avait déféré, alors il aurait malheureusement dû le faire peut-être plus tôt et plus en masse, mais juste avant que Xynthia, le préfet de Vendée avait déféré un permis de construire, autrement dit, il avait saisi le tribunal administratif pour le faire annuler sur le fondement de cet article du RNU lié à la sécurité publique, et le tribunal avait estimé que le permis était bel et bien illégal, et donc il avait été annulé. Donc voilà, je crois que la boîte à outils est très largement suffisante, surtout depuis qu'elle a été améliorée, on en parlera plus tard, par la loi climat résilience. La question, c'est est-ce qu'il faut l'utiliser? Et là-dessus, je terminerai rapidement. Je reviendrai sur ce qui a été dit aussi, c'est que moi je défends des collectivités locales au contentieux ou en conseil depuis une vingtaine d'années. On s'aperçoit que quand des communes jouent le jeu, font l'exercice de rendre les terrains inconstructibles ou de refuser les permis de construire, c'est les propriétaires qui vont attaquer. C'est-à-dire des gens à qui on va dire « vous n'aurez pas le permis de construire parce que votre construction et par le même vos vies seront exposées à un risque pour la sécurité publique de submersion ». les gens vont quand même au tribunal. Donc il y a un tel attrait de ce littoral que l'exercice est tout à fait difficile à mettre en œuvre.
Et oui, c'est tout le problème. Monsieur le député, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir en vous disant deux choses. La première chose, c'est que je voudrais saluer le fait que autour de cette table et en duplex, il y ait une forme de consensus sur les outils à la main des collectivités pour agir. Je peux vous assurer que pour fréquenter beaucoup de réunions, de séminaires, etc., ce n'est pas toujours le cas. On sait beaucoup critiquer l'État, et bien évidemment, vous ne me trouverez pas pour dire qu'il est parfait, mais en l'occurrence, je voulais dire cela. Et vous dire aussi, je parlais tout à l'heure de schizophrénie, et pour illustrer cette schizophrénie, il se trouve qu'entre 2017 et 2022, moi j'ai présidé le Comité national de suivi et de gestion intégrée du trait de côte. Pendant 5 ans, on a beaucoup travaillé, beaucoup phosphoré, réfléchi sur la stratégie, sur ce qu'il convenait de faire, de ne pas faire. Mais on voit bien, et on le disait tout à l'heure, qu'il faut agir. On nous a dit qu'il manquait des outils, une boîte à outils pour agir. Je sais qu'on va parler de la loi climat et résilience, je ne veux pas spoiler, pardon, mais pour cet anglicisme, mais vous dire que effectivement. Dans le cadre de la loi climat et résilience, nous avons étoffé les outils et donc créé une boîte à outils avec des éléments supplémentaires. Aujourd'hui, quel est le constat? Vous le disiez dans votre propos introductif, on a 864 communes identifiées et sur la menace érosion et submersion. Parce que l'érosion d'aujourd'hui, c'est la submersion de demain.
Exactement.
Eh bien, sur les 864 communes, vous vous rendez compte que vous en avez 126 qui se sont inscrite, si je puis le dire ainsi, que d'ici quelques jours, nous en aurons 110 supplémentaires. Mais ça dit quelque chose de cette prise de conscience et de cette volonté d'agir. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit, il n'y a pas suffisamment d'outils, mettez-nous des outils à disposition. Et lorsque ces outils-là sont mis à disposition, et encore une fois, il y a de l'imperfectibilité là-dedans, eh bien, on freine des quatre fers pour pouvoir y aller. Donc, je crois qu'il faut le dire, moi je le dis très régulièrement, je peux vous dire que je ne me fais pas que des amis quand je le dis, mais je crois que il s'agit de notre responsabilité, à un moment donné, que chacun justement prenne conscience et agisse. Aujourd'hui les outils sont là, alors on viendra certainement tout à l'heure à parler de la question du financement, moi je ne la mets pas de côté, je ne la minimise pas, je sais l'importance qu'elle a, mais ce ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Oui, on a un souci et on a une interrogation sur le financement, mais en attendant, effectivement, il faudrait que les communes qui sont aujourd'hui menacées par ces phénomènes aient le courage, je vais le dire comme ça, aient le courage de s'inscrire dans cette liste, mais on voit bien les raisons qui concourent à ne pas le faire, parce que effectivement, pour beaucoup d'élus locaux, eh bien, ils considèrent que c'est une forme de liste noire et que ça peut gréver l'attractivité de leur territoire.
Et oui, tout à fait. Et c'est important de l'avoir rappelé, je vous remercie. D'ailleurs, ça fait une très bonne transition vers notre dernière partie pour essayer de comprendre ou de voir quelles solutions on pourrait mettre en place demain. Et pour l'introduire, je vous propose d'écouter ce reportage sur la ville de Concarneau avec l'interview de Bruno Ferré qui appartient à l'association Bretagne Vivante. On écoute.
Alors, a-t-on des solutions écologiques pour protéger la submersion marine? Je pense aux habitations trop près des plages.
Ça, c'est un problème récurrent. C'est pas dans ce sens-là que se pose la question, en fait. Il y a des endroits où c'est trop tard. On ne peut rien faire. De toute façon, la nature reprendra ses droits. Elle est beaucoup plus forte. Le trait de côte diminue tous les ans. On a le problème au Glénan, on a le problème sur tout le littoral, en fait. Et c'est vrai que autrefois, l'urbanisation, ça n'a pas pris en compte ces phénomènes naturels. Donc là, ça va poser problème pour certaines constructions qui sont trop proche du littoral, ça pose déjà problème. On voit ça dans le sud-ouest de la France. La sensibilisation est avant tout extrêmement importante pour les particuliers, mais aussi pour les élus, pour qu'ils évitent de mettre en place des zones constructibles trop proches du littoral, pour qu'ils inscrivent ça dans les plans locaux d'urbanisme, etc., etc. C'est un problème très compliqué.
Donc voilà, ça le rappelle et ça fait bien la synthèse de ce qu'on vient de dire. Au final, le vrai souci, ça a été quelque part de construire trop près de la mer, là où les anciens d'ailleurs n'y allaient pas ou très rarement ou de façon protégée à travers un port, souvent une géographie qui le permettait également. On entendait aussi tout à l'heure dans le précédent reportage qu'il y avait une adaptation quand même à faire des maisons, de l'architecture par rapport finalement au risque. Isabelle Diaz, vous qui travaillez donc au PUCA, est-ce que adapter finalement les logements au risque de submersion, c'est une solution qui vous paraît résiliente ?
Et oui, donc au PUCA, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le sujet et notamment sous des formes expérimentales hein, pour trouver des formes un peu globales de transformation, donc en termes de matériaux, en termes de formes urbaines, en termes de circuits courts sur les territoires. Alors peut-être dire en amont que de toute façon, l'adaptation va être le sujet fondamental de l'aménagement. C'est-à-dire qu'il est quand même question, et notamment sur, si on en vient un petit peu à la loi climat et résilience, il s'agit de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers. Donc il va s'agir de ne plus construire sans avoir compensé, ou ne plus construire tout court. Et donc là, sur le littoral, cette question de l'adaptation, elle est absolument fondamentale, c'est-à-dire adapter l'existant. En fait, c'est l'un des axes majeurs en fait, des politiques publiques de l'aménagement, de l'architecture, du logement. C'est adapter l'existant aux usages futurs et aux besoins de loger les gens. Donc ça, c'est la grande réflexion qu'on a tous en commun. Alors, le logement, bien sûr qu'il y a des solutions. Hein, on a vu à rehausser un étage, il y a des financements possibles avec le fonds Barnier.
Construire des zones refuges, j'imagine.
Des zones refuges, avoir des circulations, donc en cas de crise, qui puissent guider les populations, etc., etc. Mais cela ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'on voit quand même que l'échelle du quartier, l'échelle de la commune et au-delà est très importante. Et on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, la question du sol, la question du sol filtrant. Du sol qui accueille les eaux, du sol qui permet en fait à l'eau de venir et de repartir, ces questions-là sont devenues fondamentales. Donc effectivement, au niveau individuel, la maison, il est important d'imaginer des solutions, hein, de libérer le rez-de-chaussée, d'avoir des usages qui peuvent être différés et des zones de refuge. Mais la question de l'aménagement au niveau communal et au niveau de l'espace public est absolument à intégrer en fait dans les réflexions futures.
Et au niveau du financement de tout ça, donc vous parliez du fonds Barnier, donc ça peut être une clé pour aider au financement, mais est-ce que ça suffira pour finalement adapter ces territoires?
Certainement que non. Hein. On a plusieurs financements. On a le fonds vert actuellement, donc qui est mis en place par l'État pour répondre, en tout cas, ou soutenir des projets des collectivités. Hein. Ça, c'est très important. Et on n'a pas de fonds dédiés de manière spécifique à la question dont on parle aujourd'hui.
C'est important donc, quand ça, même c'est
absolument.
De mentionner.
Je laisserai les autres intervenants abonder là-dessus. Voilà. Et peut-être juste pour ajouter une chose, c'est que nous travaillons sur les territoires d'outre-mer.
Oui.
Et je pense que ça, c'est une question intéressante parce que les territoires d'outre-mer sont donc eux soumis, ou en tout cas, ils connaissent les risques de différentes natures, hein, le séisme, les températures,
les volcans,
voilà, donc la submersion marine, etc. Et donc on apprend beaucoup de ce territoire-là. Nous, les projets qu'on mène donc à Mayotte, en Guyane ou en Martinique, nous permettent en fait vraiment d'apprendre de ces territoires et en tout cas d'anticiper un petit peu sur des modèles. Qu'il faudrait importer d'une certaine manière
en
du
métropole,
sud vers le nord.
C'est bien pour une fois. Ça va dans ce sens. Marco Libel, vous qui êtes urbaniste, quelles sont les solutions, alors là je parle d'un point de vue de l'aménagement, que vous voyez en tout cas ou qui vous semble pertinente aujourd'hui pour s'adapter à ce risque de submersion?
Alors, effectivement, l'urbanisme va être particulièrement en fait, pertinent pour s'adapter au risque, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de changer de rapport au risque, de ne plus être dans une logique de protection, de lutte, de se voir imposer des réglementations, donc comme on le disait juste avant. et justement d'intégrer le risque dans un projet urbain de recomposition, de réaménagement du littoral, c'est voir le risque comme support de projet. Donc, on va réaménager tout le front de baie pour gagner finalement en qualité de vie et non pas devoir reculer, devoir renoncer à sa maison. C'est finalement, au contraire, s'enthousiasmer pour un projet qui va offrir des espaces publics, réintégrer des îlots de fraîcheur en ville aussi, réintégrer, en tout cas réaménager autrement et ne plus venir construire, urbaniser en se pensant plus fort, mais au contraire en réintégrant la nature, en sachant qu'ici, l'eau peut pouvoir prendre sa...
Vous avez quelques exemples qui sont intéressants à mentionner
aujourd'hui ? Oui, justement. Donc on a évoqué le sujet de Lacano tout à l'heure. Donc Lacano prévoit de recomposer justement tout son front de baie, en tout cas une grande partie de son front de baie, en relocalisant donc les constructions qui sont sur cette partie, de le réaménager en promenade piétonne. Et donc Lacano va plus loin que les plans de prévention existants. Il a intégré la commune a intégré dans son PLU une bande beaucoup plus large que les plans de prévention pour préfigurer toute une bande de recomposition. Donc dans toute cette bande, il sera interdit de construire, de venir rajouter des constructions. Et au contraire, au fur et à mesure, cette zone va pouvoir être recomposée, donc préemptée, avec toute une boîte à outils qui existe la boîte à outils de la submersion marine, mais aussi la boîte à outils de projet. Hein, finalement, on vient piocher dans les outils de projet urbain pour répondre à la submersion marine. Et l'objectif, c'est donc de recomposer tout ce littoral, mais on est à horizon 2100. Et c'est là aussi que se pose cette question de temporalité. On est dans le temps du projet urbain, mais de grande ampleur, plus seulement recomposer une ou deux maisons ou même déplacer un camping. Et là, c'est vraiment un projet conséquent, mais qui est du coup aussi porté comme exemplaire du point de vue de l'État. Et c'est comme ça aussi que les collectivités puissent des financements, trouvent des sources de financement. C'est en montrant leur volonté, leur courage, comme vous le disiez, Monsieur Buchou, pour ce type de projet. Donc vraiment intégrer le risque dans un projet d'ensemble, ça permet de ne plus le voir comme un effet négatif, mais au contraire de l'intégrer dans un projet vraiment enthousiasmant.
D'opportunité,
je pense que c'est vraiment la clé de ce point de vue-là.
Stéphane Buchou, vous avez participé, alors voilà, on en vient, ça y est, à cette fameuse loi climat et résilience, n'est-ce pas, en 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà? Et puis sur les solutions, surtout, qu'elles apportent pour les populations soumises à ce risque de submersion et d'érosion?
Oui, je peux vous en dire. Alors, on va pas détailler parce que je pense que l'après-midi n'y suffirait pas.
On a plus beaucoup de temps,
on est d'accord. Je voudrais rebondir, moi, sur ce que vient de dire Margot Libel. Il y a un mot que vous avez employé deux fois et qui me va bien. C'est le mot enthousiasmant. Il faut vraiment qu'on soit dans ça. Alors, c'est pas de la béatitude, évidemment, mais je crois qu'il faut voir ce dont on est en train de parler comme une opportunité de repenser, de réaménager nos littoraux. Il ne s'agit pas de dire aux gens, encore une fois, vous ne viendrez plus au bord de la mer, vous ne viendrez plus jamais habiter au bord de la mer, mais simplement, il faut qu'on le fasse collectivement d'une autre manière. La boîte à outils et la loi climat et résilience, encore une fois, la loi, et c'est le législateur qui vous le dit, la loi ne fait pas tout. Nous avons fait en sorte, au gré des discussions que nous avons eues en amont et depuis des années, de mettre à disposition un certain nombre d'outils. Il y a à l'intérieur de cet outil d'abord la cartographie et donc la connaissance, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quel est le pas de temps selon lequel tel ou tel territoire va être touché, va être menacé. On a mis dans le cadre d'un décret qui est sorti il y a quelques mois, un bail, le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, qui dissocie la pleine propriété de l'usufruit du logement. Une méthode d'évaluation des biens. Parce que ça, c'est un vrai sujet. On l'a un peu évoqué, mais comment est-ce qu'on évalue un bien qui, demain, est voué
à disparaître,
à disparaître. Bon, c'est plus facile de se poser la question ici, entre nous, que lorsque vous êtes propriétaire du bien. Ceci étant dit, on a un sujet, et là aussi, sur ce qu'on appelle, nous, le stock, c'est-à-dire tous ces logements qui sont prochainement vouée à disparaître, comme vous le disiez. Et on a mis en place, désolé d'être un peu répétitif, d'autres outils qui vont empêcher demain de commettre les erreurs que nous avons commises depuis que nous urbanisons les littoraux. Donc, le point peut-être manquant, c'est la question du financement, parce que comment est-ce qu'on fait pour payer tout ça,
et
au
oui,
fond.
C'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler du fonds Barnier. Il y a depuis des années une bataille rangée de spécialistes qui considèrent que comme, et là je vais vous parler de l'érosion côtière et du recul du trait de côte, ce ne sont pas des risques, eh bien, on ne peut pas faire appel au fonds Barnier. Oui. Donc, fort de tout cela, nous avons essayé d'élever, sans faire de mauvais jeu de mots, un peu le débat et d'essayer de trouver, comme Madame Diaz le disait, et c'est vraiment quelque chose moi, à laquelle je suis particulièrement attaché, un fonds dédié et pérenne. Parce que les enjeux dont on est en train de parler, c'est plusieurs milliards, pour ne pas dire plusieurs dizaines de milliards à terme. Ce sont évidemment des logements, ce sont des équipements publics, ce sont des infrastructures. Enfin, c'est vraiment... il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Donc, j'ai en 2019 commis un rapport sur le sujet et donc dans les nombreuses propositions que j'ai faites, il y a celle du financement dédié et pérenne qui avait été au préalable proposée par les trois inspections qui avaient aussi travaillé sur le sujet, qui est de mettre en place une surtaxe sur ce qu'on appelle, alors c'est un acronyme un peu bizarre, les DMTO, c'est-à-dire les droits de mutation sur les transactions immobilières. Après, se pose la question de savoir si cette surtaxe, on l'applique seulement sur les collectivités littorales ou est-ce qu'on l'applique sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'à chaque transaction immobilière, eh bien, il y a une petite partie qui vient se déverser, là aussi, pardon de faire ce jeu de mots, dans un fonds qui servira demain non seulement à financer les opérations, mais aussi à financer celles et ceux qui sont propriétaires d'un bien qui, encore une fois, est voué à disparaître. Mais tout ça doit faire l'objet d'un débat parlementaire. Peut-être terminer en vous disant que la secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, a lancé en octobre dernier, à l'occasion des journées nationales de l'Association nationale des élus du littoral, une période de concertation au sein du Comité national du trait de côte, afin que nous puissions définir ensemble la méthode d'évaluation. Qu'est-ce qu'on indemnise, qu'est-ce qu'on n'indemnise pas, sur quelle base. La ministre nous a donné un an pour aboutir à des solutions opérationnelles. Et donc moi, j'espère que dans quelques mois, nous pourrons peut-être revenir sur ce plateau et vous annoncer des choses très concrètes parce que il y en a besoin. L'urgence est là. Le changement climatique, c'est pas du rêve, c'est pas un fantasme. C'est à l'œuvre et on le voit tous les jours sur nos territoires. Donc, nous avons l'impérieuse nécessité d'agir.
En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont en route et ça, c'est rassurant, ne serait-ce que pour tous ceux qui nous écoutent également. Loïc Prieur, un mot finalement pour clore cette émission, de votre point de vue sur ces initiatives entreprises, sur l'efficacité aussi de ce qui existe en termes, je dirais, réglementaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui manquerait finalement pour vous, selon vous?
Je crois qu'au risque de me répéter et au risque de faire écho à ce qui, je crois, fait consensus autour de cette table, je pense que du point de vue du droit et des outils de l'aménagement, il ne manque rien. On avait, sans y revenir, un dispositif PLU au littoral permettant déjà de faire beaucoup de choses. Ce dispositif permet toujours, d'ailleurs, dans le cas du droit commun, y compris pour les communes qui n'ont pas fait le choix d'adhérer à cette liste de dispositifs complémentaires, on pouvait déjà opérer des opérations de relocalisation, ça ne posait pas de difficultés particulières. Climat résilience, c'est vrai, monsieur le député l'a rappelé, a ajouté de nouveaux outils, c'est, pour les résumer, cette obligation pour certaines communes, celles qui font le choix effectivement d'adhérer, d'élaborer des cartes de recul du trait de côte, en distinguant des zones de recul à 0,30 ans dans lesquelles les constructions nouvelles autorisées devront être démontables, et une seconde zone avec un pas de temps différent, qui est le pas de temps 30-100 ans, dans lequel les constructions nouvelles pourront être autorisées, mais à la condition pour le propriétaire de consigner une somme d'argent destinée à la démolition. Donc, ce dispositif, il existe. La loi littorale a aussi, dans ce contexte-là, été assouplie pour permettre des opérations de relocalisation, puisque souvent, ce qui va coincer, si vous me permettez l'expression, Quand on relocalise, c'est l'obligation que pose de manière générale la loi littorale de 86 de relocaliser en continuité des agglomérations des villages existants. Donc parfois, ça pose difficulté. Donc même à ça, on peut y déroger aujourd'hui. Non, donc je crois que la boîte à outils, pour reprendre l'expression que nous avons tous utilisée, me paraît largement complète. Ce qui va manquer maintenant, c'est, je dirais que c'est pas tant la volonté des élus. Moi, ceux avec qui je travaille, même s'ils n'ont pas fait le choix formel d'adhérer au dispositif, me semble assez convaincu de l'impérieuse nécessité de prendre en compte la question du risque naturel. Je crois maintenant que c'est la question de l'incarnation de cette problématique-là dans la population, chez les propriétaires, que le citoyen finalement prenne conscience que tout ça doit se faire dans l'intérêt général et qu'on n'a plus beaucoup de choix aujourd'hui.
Mmh. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir rendu cette émission passionnante. Je pense qu'on reviendra pour parler spécifiquement de la loi climat et résilience, et notamment sur ses aboutissements, puisqu'elle est quand même très récente, hein, donc en tout cas elle a le mérite d'exister. Je vous remercie donc à nouveau, et puis je renvoie donc au livre actuel, donc Territoires submergés, chez Terre Urbaine, qui permet d'avoir des compléments d'informations sur tout ça. Et on se quitte en chanson. Je vous propose d'écouter cet extrait de La maison est en ruine de Michel Delpech. Merci à toutes et à tous.
Avant l'inondation, c'était notre maison, c'était notre jardin. On avait réussi à se faire une vie, et nous n'avons plus rien. Regarde nos pommiers, ils n'ont pas résisté aux forces du torrent. On ne voit plus d'oiseaux, il n'y a que de l'eau et puis du vent. Allez, viens mon amour, là-haut sur la colline, regarde, la maison est en ruine. Il faut l'abandonner et tu te fais du mal à pleurer. Nous avons des amis là-haut sur la colline, on en a dans les villes voisines. On est sûr de trouver quelqu'un qui voudra bien nous aider. Allez, viens mon amour, on recommencera. Il me reste mon cœur et mes bras. La maison, mon amour, on la rebâtira.
Territoire en projet, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.